Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau rendez-vous économique du Cercle Turgot et pour lequel je reçois notre dynamique administrateur Pierre Sabatier, qui par ailleurs est président du cabinet de recherche économique PrimeView. Bonjour Pierre.
Bonjour Jean-Louis.
Alors je reçois aussi un auteur, puisque vous allez faire paraître très prochainement chez Erol un ouvrage sur un autre sujet qui est la Chine, une bombe à retardement. Alors c'est pour très bientôt, on aura l'occasion d'en reparler sur notre antenne.
Absolument.
Mais en tout cas, je rappelle que vous êtes aussi un auteur de talent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui commence à réapparaître, en même temps que l'inflation d'ailleurs, qui est celui des perspectives des prix de l'immobilier en France. Et vous venez de faire paraître avec votre associé Jean-Luc Buchalet un rapport qui a beaucoup interpellé sur un risque d'une baisse massive du prix de l'immobilier en France. Alors, quelles en sont les raisons? C'est ce que nous allons voir, mais peut-être d'abord en replaçant dans un contexte plus macroéconomique cette réflexion. Et à l'issue de la campagne électorale, où on a beaucoup parlé du revenu des ménages qui paraissent durablement affectés et de l'inflation qui, par ailleurs, commence à pointer son bout du nez. Alors, tout ceci se situe, votre réflexion, votre rapport se situe dans ce contexte. Donc, quelles sont les raisons de cette inquiétude sur les perspectives des prix d'une baisse massive? Donc, ce n'est pas simplement une petite érosion, dites-vous. Quels sont les principaux axes de cette réflexion?
Alors déjà, pour revenir à l'origine en fait de notre étude, on s'interrogeait, parce qu'on étudie en fait les grands marchés au niveau mondial, et on s'interrogeait de l'exception française, et il faut bien le noter aujourd'hui, le seul pays ayant connu une hausse extrêmement forte des prix de l'immobilier avant crise, avant 2008, mais qui a continué à voir ses prix croître depuis 2008, puisqu'on est bien au-delà en fait des sommets qu'on avait atteints il y a 4 ans désormais. Tous les autres pays qui avaient connu une hausse et une inflation extrêmement forte des prix de l'immobilier ont connu des baisses massives. États-Unis, Royaume-Uni, Espagne, ces baisses sont au mieux stabilisées, hein, on s'est arrêté autour de 30-35% aux États-Unis. Elles se poursuivent en Espagne et dans d'autres pays qui avaient connu justement une surchauffe initiale. Donc l'interrogation, c'est qu'est-ce qui explique l'exception française dans ce domaine? Donc à partir de là, en fait, on s'est interrogé sur, il y a deux choses toujours, hein, il y a ce qu'on appelle le tactique, le stratégique, le court terme, le long terme. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas le nier, les prix de l'immobilier ont augmenté, en fait, ont augmenté d'ailleurs depuis quasi une quarantaine d'années, pour des raisons légitimes d'abord. Ces raisons légitimes, c'est que pour que le prix d'un bien augmente, il faut en gros que la demande augmente et que le désir d'acheter augmente. Or, on constate une similitude assez frappante qu'on soit américain, japonais, français ou italien. On a à peu près le même comportement vis-à-vis de l'immobilier, d'ailleurs vis-à-vis des actions et des obligations, en fonction de son âge. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, on est acheteur net d'immobilier jusqu'à 59-60 ans et qu'on devient vendeur net d'immobilier après. Ça veut dire simplement, hein, il suffit de comparer en fonction de votre âge, si vous achetez plus de biens que vous n'en vendez. Et donc, la rupture franche, elle est à 59-60 ans. Donc, pourquoi je dis que le préalable à toute hausse des prix, c'est toujours un désir d'acheter? C'est parce que vous savez que le prix, c'est l'offre et la demande. Et donc, cette demande-là, donc le préalable, c'était le désir d'acheter. On a constaté quoi? Qu'au cours des 40 dernières années, si on regarde en fait la tranche 5 ans par 5 ans, en fait, on constate que la différence de gens, d'acheteurs potentiels, était toujours... Les acheteurs potentiels ont été systématiquement plus nombreux que les vendeurs potentiels, à hauteur de 400 à 450 000 personnes en plus tous les 5 ans. C'est-à-dire que ce désir d'acheter, il a été là, il a été présent pendant les 40 dernières années. Il explique en fait cette hausse des prix. Alors derrière, vous avez compris qu'il y avait un désir d'acheter jusqu'en 2010 à peu près. On verra tout à l'heure que les perspectives sont vraiment différentes pour les années à venir. Donc ce désir d'acheter suffit pas à expliquer la hausse des prix. Il est nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Pour qu'elle le devienne, il faut que cette demande potentielle soit une demande solvable. C'est là où, entre guillemets, le bas blesse. C'est-à-dire que de 1965 à 1995, là, ce désir d'acheter qu'augmenté a été financé par une augmentation des revenus. Et donc, lorsqu'on regarde l'évolution du prix d'immobilier par rapport aux revenus, si les prix ont augmenté, ils ont augmenté totalement en ligne avec l'augmentation des revenus. Donc, pas de souci. Il était légitime que les prix montent. On constate une vraie rupture entre 1995 et 2000 quand finalement les revenus se sont arrêtés d'augmenter de manière significative. Et pourtant, les prix d'immobilier ont continué d'augmenter dans des proportions extraordinaires. C'est-à-dire que le ratio prix sur revenu a augmenté de 90% entre 1998 et aujourd'hui. Et donc ça, il y a une question, c'est comment ce désir d'acheter qui restait là a été solvabilisé.
Il a été solvabilisé, on va dire, de façon artificielle, probablement par, en tout cas c'est le regard que je porte sur ce sujet, par un engagement fort de l'État à travers la fiscalité, etc. Et puis surtout un engagement bancaire qui était particulièrement fort avec des taux bas et donc une possibilité de distribution du crédit extrêmement forte. Or, effectivement, ce qui m'a frappé dans votre rapport, c'est ce que vous dites, c'est que tous ces leviers qui ont permis la hausse sont en train de disparaître les uns après les autres. On voit bien qu'on est plutôt dans une logique de désengagement de l'État. On voit que les banquiers sont de plus en plus contraints. Et donc, vous dites, vous soulignez à ce moment-là que nous sommes arrivés à une forme de bulle de valorisation et que vous estimez dans des proportions extrêmement fortes, c'est-à-dire de l'ordre de 40 à 50%.
Alors, effectivement, l'analyse est tout à fait là. C'est-à-dire que le financement des ménages n'étant plus assuré par l'augmentation de leurs revenus, mais par finalement l'augmentation de leur niveau d'endettement, il faut bien avoir conscience que le financement bancaire des ménages, il s'est fait selon trois axes. Lorsqu'on regarde à la fin des années 90, les taux d'intérêt des gens ont baissé, mais ça on le sait, mais à la limite, ce n'est pas tellement le plus important, puisqu'il avait déjà baissé tout au long de la décennie 90. Le plus important, c'est d'abord l'augmentation de la durée des emprunts. Il faut savoir qu'à la fin des années 90, les ménages s'endettaient en général sur 14 ans pour acheter leur bien immobilier. En 2010, on tourne au-delà de 20 ans. Donc cette augmentation de 6 ans de la durée d'emprunt a financé de manière massive, a augmenté la solvabilité artificiellement des ménages de manière massive et a expliqué en fait l'augmentation de la capacité d'achat. Deuxième chose, l'exigence, je dirais, des banques vis-à-vis des gens qui venaient lui demander un prêt pour financer leur bien immobilier. On est passé de à peu près 60% d'apport initial à aujourd'hui simplement 40% d'apport. Et encore, pour les nouveaux biens achetés en 2010-2011, on est sur des niveaux qui sont 80 à 85% de dette, simplement 15 à 20% d'apport. Donc cette baisse de l'exigence des banques a bien entendu permis à tous ces ménages d'augmenter leur capacité d'achat. Et donc, tout ça explique la financiarisation via le système bancaire, explique à peu près les trois quarts de la hausse donc, des prix d'immobilier au cours des 15 dernières années. Et comme vous le soulignez très justement, le reste, c'est avant tout un soutien inconditionnel de l'État, du secteur, au secteur, au cours des 15 dernières années, qui n'est pas forcément énorme en termes de poids dans le PIB, c'est 2-3% du PIB. Mais ce qui est important dans ce marché, c'est que lorsque pendant 15 ou 20 ans, l'État, qui est donc, je dirais, la représentation suprême dans notre pays, est systématiquement en soutien de la demande des prix d'immobilier, ça crée ce qu'on appelle une espèce d'aléa de moralité. C'est-à-dire, lorsque vous achetez un bien immobilier, inconsciemment, vous vous dites, si l'État est derrière moi, rien ne peut m'arriver.
Rien ne peut m'arriver et c'est quelque chose de justifié en quelque sorte.
C'est quelque chose de justifié. C'est exactement le même phénomène qu'on a connu pour toutes les bulles de valorisation liées à, l'aléa de moralité bancaire, d'investissement, des sociétés de gestion qu'on connaît au cours des 4 dernières années. Alors, malheureusement, on passe d'une confiance généralisée à une défiance généralisée dans ces cas-là. Alors, pourquoi on publie aujourd'hui, ce n'est pas un constat qu'on a fait qui date d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il nous semble que l'ensemble des paramètres qui ont solvabilisé ces ménages-là est en train de disparaître dans des proportions assez fortes. Dans un premier temps, la réglementation bancaire, très clairement, on le voit aujourd'hui, la tendance, elle va être à la réduction du bilan des banques, qui ont pris des proportions assez importantes. En France, le bilan des banques représente à peu près 310% du PIB. C'est un niveau qui est historiquement élevé. Et on peut estimer que les objectifs de la réglementation bancaire seraient de les ramener autour de 270-280% du PIB.
Ouais, donc il va y avoir une pression là, du côté bancaire inexorable. D'ailleurs, on voit ce qui s'est passé en Espagne.
L'Espagne, malheureusement, en allant beaucoup plus loin que ce qu'elle fait la France. Nous n'en sommes pas là, mais il est vrai que c'est un laboratoire, j'irais, vivant de ce qu'on a vécu dans une moindre mesure. Voilà. Donc, bien entendu, les impacts seront moins importants à l'avenir. Donc, vous avez en termes de timing, pourquoi ? Donc, la durée des emprunts qui est en train de ralentir. Deux, l'exigence des banques en termes d'apport initial qui commence à réaugmenter. Aujourd'hui, demain, pour acheter votre bien, vous ne pourrez plus simplement aller voir votre banque avec 15% ou 20% d'apport, il en faudra plus. Et trois, les taux d'intérêt qui augmentent quelque peu, mais là n'est pas l'essentiel. On est beaucoup plus dans un scénario déflationniste aujourd'hui, en tout cas récessionniste, déflationniste en Europe. On n'imagine pas que les taux d'intérêt puissent monter énormément. Si les taux d'intérêt montent sans doute un petit peu, 1%, 1,5%, c'est plus parce que les banques seront obligées, pour reconstituer leur marge, de prendre un petit peu plus sur le montant qu'elles prêtent. Donc ces trois leviers-là font que la demande des ménages va être sous pression pour l'immobilier.
Alors donc, les conséquences que vous anticipez, c'est directement sur le secteur économique du bâtiment et des TP, de la construction, qui est quand même un pourvoyeur d'emplois extrêmement élevé, des conséquences qui vont à contre-courant par rapport aux objectifs qu'on a bien compris du nouveau président. Ça n'a pas été très très évoqué dans la crise, le risque de fragilisation de ce secteur économique qui est un des grands pourvoyeurs d'emplois.
Absolument. Alors, pour finir en fait, et pour expliquer quand même les 30 à 40% de projection en termes de prix, vous avez compris que finalement, ce qu'on aime, nous, c'est regarder la toile de fond. Qu'est-ce qui dessine en fait le désir d'acheter? Est-ce qu'il augmente? Est-ce qu'il baisse? La première des choses, même si en fait la réglementation des banques va changer et va mettre sous pression la demande, derrière ça, pourquoi on pense que les prix vont baisser durablement? C'est dans un horizon de 5 à 10 ans, hein, sans que c'est des projections de temps qui sont très longs. Parce que tout bêtement, tout à l'heure, quand je vous ai dit que l'augmentation du désir d'acheter a été fondamentalement haussière en fait, depuis une quarantaine d'années, tout change. Lorsqu'on regarde les acheteurs potentiels par rapport aux vendeurs potentiels, les vendeurs potentiels, à partir de maintenant, seront 1 300 000 personnes en plus par rapport aux acheteurs potentiels tous les 5 ans pendant les 25 ans à venir.
Ouais, donc forcément, ça tire à la baisse.
La toile de fond fait que les gens seront moins acheteurs. C'est-à-dire quand vous aurez 30 ans, vous serez tout aussi acheteurs. Simplement, les 30 ans seront moins nombreux que les plus de 65 ans qui sont foncièrement des vendeurs nets d'immobilier. Donc, cette toile de fond-là nous fait tendre vers finalement un retour à la moyenne historique pour ce qui est du prix sur revenu, pour ce qui est du prix sur inflation, prix de l'immobilier sur l'inflation. Et nos projections de 30 à 40% de baisse, finalement, sont relativement conservatrices, puisque pour simplement justifier de ce retour à la moyenne, nous avons pris comme hypothèse une hausse des revenus de 1,5% par an. Bon, au cours des 15 dernières années, on était autour de 2, donc au regard de la conjoncture, ça paraît pas extrêmement pessimiste. Donc vous avez bien compris que là, vraiment, on est sur des prévisions qui sont relativement conservatrices. Mais au regard de la solvabilisation via, je dirais, la solvabilisation des ménages via le système bancaire et avec la disparition progressive, qu'ils le souhaitent ou qu'ils ne le souhaitent pas, ils ne pourront plus continuer à soutenir le secteur de l'État. Donc, tout ça participe, entre guillemets, d'une pression baissière et d'une projection à moyen long terme d'une baisse massive des prix de l'immobilier.
Voilà donc la grande synthèse de ce que vous disiez dans votre rapport, que je synthétise dans votre conclusion. Nous sommes à la veille de la fin de l'exception française dans l'immobilier. Le déclin majeur des prix que connaissent aujourd'hui la plupart des pays industrialisés est inévitable et devrait, selon nous, se situer entre moins 30 et moins 40% au cours des 5 à 10 prochaines années. Donc, c'est pas pour demain, mais ce qu'il faut retenir de ce rapport, c'est qu'on est sur une tendance
lourde
et longue qui va faire que le rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs ne sera plus du tout la même et que donc les prix, à un moment donné, seront poussés vers la baisse. Un dernier mot, Pierre Sabatier ?
Oui, pour revenir par rapport à l'explication, parce que les gens nous demanderont pourquoi l'État, finalement, s'est arc-bouté derrière le secteur de la construction, parce que c'est facile. Parce que c'est un secteur, lorsque vous faites des plans de relance, vous savez, il y a deux manières d'en faire. En général, quand vous voulez des conséquences immédiates en termes d'emploi, c'est l'automobile, la prime à la casse, qui marche de manière incroyablement bien, et le secteur de la construction, parce qu'il n'est pas ou très peu délocalisable.
C'est ça.
Voilà une des raisons. Il était facile, entre guillemets, d'investir dans le secteur de la construction, parce que ça avait des résultats immédiats. Sauf que ça, malheureusement, ça a participé à une hausse des prix sans doute trop importante, qui aujourd'hui étrangle aussi les jeunes générations. Et en soi, du simple constat économique, on peut s'interroger aussi sur le fait qu'une baisse du prix de l'immobilier permettra sans doute à un marché du travail et à un taux de chômage structurel de baisser. Parce que lorsque vous êtes propriétaire, on a constaté que lorsque vous êtes sans doute moins mobile et moins en capacité de migrer vers des régions pauvres en économie, vers des régions riches en économie, parce que c'est plus compliqué de vendre sa maison que de changer d'un bien. Donc tout ça pourrait participer quand même d'une amélioration de la fluidité de notre économie à terme.
Donc, conclusion optimiste, la baisse de l'immobilier, qui est incontournable, néanmoins aura des effets indirects positifs, et notamment en faveur de la génération dite des déshérités, comme l'appelait notre autre membre du Cercle Turgot, notre ami Michaël Mango. Donc, merci à vous, Pierre Sabatier, pour ces prévisions, ces perspectives, cette analyse. Et nous vous donnons rendez-vous tout prochainement sur notre antenne pour la parution de votre ouvrage sur la Chine. À très bientôt. Merci à vous.
Merci.